dernière phase de campagne pour les provinciales à 15 jours du scrutin. La campagne officielle a démarré. La campagne électorale. Il en sera aussi question dans la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver dans ce journal. Des poteaux électriques volés, des réservoirs siphonnés la semaine dernière à Arama. Le maire de Poum organise une réunion avec les habitants cet après-midi. Ouverture la nuit prochaine d'un G7 à Anjou, à Évian. Parmi les thèmes chauds, la signature d'un accord de paix entre Washington et Téhéran, qu'on annonce imminent depuis plusieurs jours. La question des retraites sera l'un des enjeux de la prochaine présidentielle en métropole. Marine Le Pen se dit ouverte à une part de capitalisation volontaire, alors que le RN y était opposé jusqu'à présent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous poursuivons avec le magazine des sports du lundi. Il sera particulièrement riche, Mickaël Juneski. Nous parlerons évidemment de football avec la Coupe du Monde et des matchs spectaculaires ce matin.
Exactement, nous en sommes déjà à une dizaine de rencontres jouées depuis le coup d'envoi de ce mondial aux Amériques. Et les premières sensations, un Japon-Hollande qui s'est terminé sur un nul, oui, mais avec du spectacle, deux buts partout. La Mannschaft de son côté n'a pas fait dans la dentelle face à la modeste sélection de Curaçao. 7-1 en faveur de l'Allemagne. Un mondial qui ne fait que commencer. Il sera long pour les supporters des Bleus. On attend impatiemment mercredi matin pour retrouver Mbappé et l'équipe de France pour leur début de mondial contre le Sénégal.
La Formule 1 et la Scuderia, en fait, elle célèbre son pilote roi qui renoue avec la victoire.
Le retour de Sa Majesté Lewis Hamilton qui a remporté à l'âge de 41 ans son 106e Grand Prix en carrière. Le Britannique qui remonte pour la première fois sur la plus haute marche d'un podium après deux années sans succès. Pour la première fois donc, en tête au volant d'une Ferrari, il a devancé son ancien coéquipier chez Mercedes, George Russell. Lando Norris sur McLaren s'est classé troisième. C'est un podium 100% britannique à Barcelone.
Et concernant l'actualité sportive en Calédonie, après les résultats, nous parlerons aussi de cyclisme avec le nouveau président du comité régional.
Et entre le développement des différentes disciplines sur le territoire, route, piste, tout-terrain, BMX, mais aussi les très bonnes performances de nos jeunes représentants dans des compétitions régionales ou nationales. Un événement déjà en ligne de mire, également sur le territoire le week-end prochain, le Grand Prix cycliste Shell Pacifique à la fois. Notre invité sera donc David Chavitz, le président du comité régional de cyclisme.
On se retrouve pour le magazine des sports dès la fin de ce journal. Et tout de suite, une page spéciale consacrée aux élections provinciales. Nous sommes en effet entrés dans la campagne officielle pour ces élections à deux semaines maintenant du scrutin. Elle impose certaines règles médiatiques pour l'exposition de chaque liste. Nous poursuivons bien sûr nos rendez-vous spéciaux. Notez par exemple que mercredi à midi, Elisabeth Noir animera le grand débat consacré à la province sud et recevra plusieurs têtes de liste. Sonia Bakest de liste Les Loyalistes, le Rassemblement Fort et Uni. Juanito Wamitan qui tire la liste Kanaki pour tous. Louis Mapou, tête de liste Unis pour le pays. Mila Kouloutou-Koumouli qui tire la liste Un autre monde est possible et Philippe Dunoyer, tête de liste Nous réunis. Direction la province nord maintenant et Doriane Poimienia, sixième sur la liste Unie tirée par Paul Néaoutine, était notre invitée ce matin à 7h30. Elle est revenue sur la constitution de la liste qui a pu surprendre par l'absence de certains cadres comme Jean-Pierre Djaïoué qui menait les discussions sur l'avenir institutionnel ou encore Victor Tutugoro de l'UPM. C'est donc Paul Néaoutine qui est à la tête de l'institution depuis 27 ans qui brigue un nouveau mandat. Écoutez Doriane Poimienia.
On établit d'abord un programme. Et en fonction du programme, chaque composante nomme les personnes. Donc, si vous parlez de M. Tugoro, de M. Djaïoué, ce sont les partis qui n'ont pas proposé leur nom pour figurer sur la liste pour ces provinciales.
Alors, on sait qu'il y a eu aussi quelques tensions après Bougival. Paul Néaoutine est plutôt opposé à cet accord qui a été défendu par une partie des membres de l'UNI lors des négociations. Est-ce que ça a pesé dans le choix de cette liste ou pas du tout?
Non, comme je disais, ça, c'est pas un sujet, hein, parce que les structures, elles restent libres hein, de proposer leur nom. Et je pense que c'est surtout une marque de confiance et de fiabilité par rapport à la politique que M. Néaoutine a menée depuis ces dernières années.
Dans son programme, l'UNI évoque avant tout les politiques provinciales issues d'un bilan de la mandature qui a été effectué auprès de ses sections de base. Doriane Poimienia, sixième sur la liste de l'UNI en province nord, est tout de même revenue sur la position de son parti concernant l'avenir institutionnel.
Notre slogan, c'est pour un destin commun des colonisés. En 2019, c'était confortant notre souveraineté. Mais on a quand même vécu un mandat assez particulier avec toutes les crises qui se sont passées. On a aussi subi des discours de division. Donc, la démarche que l'UNI a toujours portée, c'est que chacun est responsable de la souveraineté. Nous, notre objectif, c'est la souveraineté en partenariat avec la France, en se basant sur les intérêts des Calédoniens en priorité, bien entendu.
Dorian Poimenia, sixième sur la liste Unie en province nord, qui fera cette semaine campagne sur la côte est. Avec l'entrée en campagne officielle et à 15 jours du scrutin maintenant, les rendez-vous de campagne s'accélèrent un peu. Il y a des programmes de liste, des moments d'échange et les élus qui vont à la rencontre des Calédoniens, notamment en province sud, Léo Fichou.
Oui, on démarre avec la liste Un autre monde est possible de l'éveil océanien, menée par Mila Kulotukumuli, qui organise une réunion publique à la maison commune de la tribu de Daniouni à Païta. Ce sera dès 18h. La liste Kanaki pour tous, de son côté, du FLNKS et de Joanito Wamitan, était à Bouraï ce matin. Elle sera au marché communal de Moindou et dans le quartier de Normandie à Nouméa ce soir, 17h donc. Et puis, dernier rendez-vous pour la liste FLNKS dans le sud, ce sera à Dumbéa, 18h, au quartier des Palmiers. Deux réunions publiques également pour la liste Faire Pays, portée par Robert Kakoué, ce matin à la maison commune de Waou à Yaté. Et ce soir, dès 18h, au Pont des Français, au Mont d'Or. Arnold Leck et la liste pour une Calédonie française seront au Ramada, à Nouméa, à partir de 18h. Réunion également pour la liste Les Loyalistes et le Rassemblement Fort et Uni, porté par la présidente sortante Sonia Baquès. Ça sera en réunion de proximité. C'est ce soir, à partir de 18h, au lotissement Bernard de Païta. Nous, réunis, liste menée par Philippe Dunoyer, continue sa tournée en minibus avec son baby-car. Depuis 8h et jusqu'à 16h, les candidats donnent rendez-vous du côté du Mont d'Or. Enfin, la liste Unie pour le pays, portée par Louis Mapou, organise une réunion de proximité à 18h au local Kawati de Dumbéa.
En province nord, agissons ensemble pour le nord et sa tête de liste Vanessa Wakapo donne rendez-vous dès 18h au centre administratif de Kouawa. Notez que Vanessa Wakapo sera notre invitée demain matin. La liste UCFLNKS tirée par Pascal Sawa était à Kouawa ce matin et elle sera à Canala cet après-midi à partir de 16h à la salle polyvalente. Faire Pays, la liste portée par Maurice Wakaawa sera à la tribu de Baye à Poidimi à 17h et enfin la liste unie de Paul Néaoutine sera à 14h à la tribu Saint-Fernand à Puebo. Et puis dans les îles, la liste Union pour construire dans les consensus porté par Jacques Lally organise une réunion publique dès 17h à la maison commune de Luechila à Lifou. L'actualité de la campagne électorale suite et l'on retrouve tout de suite la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Le centre devait être la nouveauté et l'attraction des provinciales 2026. Beaucoup d'observateurs pariaient déjà sur l'émergence d'une voix médiane qui viendrait balayer la bipolarisation de la vie politique calédonienne. Une troisième voix qui renverrait aux oubliettes la sempiternelle division binaire entre indépendantistes et partisans du maintien dans la France. Plusieurs commentateurs regardaient même avec gourmandise l'apparition de cette alternative modérée aux deux blocs désormais estampillés radicaux. Et ils étaient nombreux à se féliciter de ce nouveau choix qui allait remplacer les extrêmes. Mais leurs espoirs se sont envolés face à la dure réalité de la guerre des égaux. Les centristes voulaient tous l'union, à condition d'être le premier de liste. Le front commun qui aurait éventuellement pu permettre la naissance de cette voie du milieu a volé en éclats face aux ambitions personnelles, rendant impossible toute liste d'union. Et sur les 11 listes présentes en province sud, pas moins de 4 se réclament de cette voie centrale. La liste de l'éveil océanien, conduite par Mila Kulotukumuli, la liste Nous de Philippe Dunoyer, la liste Une province pour tous, conduite par Wallace Cotra et soutenue par Calédonie Ensemble, et la liste Faire Pays du mouvement de Laurent Châtenay. 4 listes issues de la société civile et qui tiennent toutes plus ou moins le même discours. 4 listes qui veulent dépasser les clivages et gouverner autrement. Le problème, avec plusieurs de ces listes centristes, c'est qu'elles diffusent un langage mortifère, rendu plus dangereux encore par la multiplication des émetteurs. Cette petite musique de fond, c'est que l'indépendance est inéluctable et qu'il faut la préparer. On l'entend dans les déclarations de Robert Kakoué de Faire Pays, qui affirme que tant que l'aspiration des Kanaks à la souveraineté ne sera pas assouvie, on aura de la peine à vivre ensemble. On l'entend dans les propos de Wallace Cotra, qui nous dit que tant que le peuple Kanak réclamera son indépendance, il n'y aura pas de stabilité. Ils affirment être ni indépendantistes ni non-indépendantistes, mais ils se sont résignés à l'indépendance et ils veulent faire croire aux Calédoniens qu'elle est inévitable, que c'est forcément l'issue du processus en cours et que c'est la seule garantie de l'apaisement. Ils sont, pour reprendre l'expression de Lénine, les idiots utiles des indépendantistes. Et Louis Mapou ne s'y est pas trompé quand il affirme « Tous ceux qui se revendiquent du centre nous ont rejoints ». L'histoire calédonienne récente a démontré que la troisième voie de la FNSC à l'éveil océanien en passant par Calédonie Ensemble a toujours fait le jeu des indépendantistes. Mais le fait marquant de cette campagne, c'est aussi que ces listes centristes sont dans le déni. Elles font l'impasse sur le résultat des trois référendums. Et c'est pourtant ce refus de l'indépendance exprimé trois fois par les Calédoniens qui a créé la situation que les partenaires de l'accord de Nouméa doivent aujourd'hui examiner, au lieu de s'égarer dans les méandres d'une improbable voie centrale ou dans l'hypothétique recherche d'une pleine souveraineté. Ne leur en déplaise, ce n'est pas à un ni-ni, ni indépendance ni maintien dans la France, que doivent répondre les candidats aux provinciales. Mais ils doivent s'inscrire dans le choix existentiel que les Calédoniens ont tranché à trois reprises. Les modérés opposés au clivage ont totalement échoué à s'unir, tandis que les indépendantistes sont eux aussi profondément divisés. Et comme un pied de nez, seuls les loyalistes et le rassemblement ont réussi l'union. Et ils soutiennent même des listes d'union dans les trois provinces, avec la liste Agissons Ensemble dans le Nord et Un Nouveau Souffle dans les îles. En fait, il aurait fallu expliquer avant à tous les candidats que c'est un scrutin à la proportionnelle à un seul tour, dans lequel chaque voix pèse, alors que le seuil à atteindre pour obtenir des sièges est de 5% des inscrits et qu'il est particulièrement difficile à franchir.
Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver cette chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Nord sur notre site internet ou la réécouter. Ce sera cet après-midi après le flash de 16h. Dans le reste de l'actualité en Calédonie, à Poum, une série d'incidents a bouleversé le quotidien des habitants. 37 poteaux électriques ont été volés en fin de semaine dernière. Des réservoirs de véhicules ont aussi été siphonnés sur une propriété, tout cela dans la région d'Arama, entre mercredi et dimanche. Concernant le vol des poteaux, le mode opératoire laisse penser à une opération bien préparée selon le maire de Poum, Marc Tidjin.
Ça s'est passé en plusieurs nuits. Ils ont choisi le bon endroit, pas de domicile à proximité. Au niveau de la météo, il y avait un bon courant marin, donc on n'entendait pas trop le bruit de leur disqueuse, hein, parce que c'était recouvert par le bruit de la mer, et aussi une période bien ventilée, le bruit des branchages qui couvraient le tout. Donc voilà, ils ont travaillé ça dans la tranquillité, dans une certaine sérénité, et puis ils ont pu faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire emporter les 37 poteaux en prenant soin de déposer le fil téléphonique à terre après l'avoir décroché.
Voilà, le vol de poteaux électriques interroge, mais selon Marc Tidjin, ces poteaux peuvent être utilisés comme support solide pour des constructions. Pour autant, ils ne passent pas inaperçus et le maire de Poum pense pouvoir identifier les voleurs en discutant avec les habitants.
Il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui à 15h dans le secteur où ça s'est passé, c'est dans le secteur d'Arama. Donc il faut savoir qu'Arama, il y a trois tribus. Donc tous ces gens-là sont conviés à cette réunion de manière à ce qu'on puisse parler ensemble. Surtout ici, on est dans une île, donc on n'a pas encore la mentalité où on n'a rien vu, rien entendu, non. Les gens ici, donc ils parlent encore. Donc ouais, on espère trouver les auteurs et puis voir un peu quelle solution on peut apporter derrière, pourquoi ils l'ont fait, si on peut corriger les choses. Je pense que c'est dans la discussion qu'on pourra ressortir tout ça.
La réunion doit donc avoir lieu cet après-midi à 15h avec les habitants des trois tribus d'Arama, la gendarmerie, mais aussi l'OPT à qui appartiennent les poteaux volés. Selon le maire Marc Tidjin, rien n'indique pour le moment que les vols de poteaux électriques et ceux du carburant soient liés. Il est 11h44, une première pause dans ce journal. Et dans un instant, nous ouvrons une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. Dimanche 21 juin, c'est la fête des pères. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales fête des pères sur la page Facebook Le Fun.
Vous êtes client EEC ? Rejoignez le club EEC. Vous y trouverez des jeux, des astuces, des cadeaux et plein d'avantages. C'est gratuit, 3 clics pour activer votre compte.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Trois jours sous haute tension à Évian. La France accueille à partir de la nuit prochaine le G7, une réunion particulièrement importante dans le contexte international actuel. Nous allons y revenir. Mais cette réunion est aussi un enjeu de sécurité. 12 000 forces de l'ordre, 4 000 militaires sont déployés pour sécuriser le site et éviter d'éventuels débordements comme il y en a eu la nuit dernière à Genève, à quelques kilomètres d'Évian. Mathis Lang pour Europe 1.
Avec cette manifestation anti-G7 redoutée par les forces de l'ordre, 20 000 manifestants ont défilé dans les rues, dont 600 Black Blocs. Des affrontements avec la police ont éclaté, notamment aux abords de l'ONU. Des vitrines d'une banque ont été brisées. Et ce, malgré l'important dispositif déployé. Des policiers venus de toute la Suisse sont dépêchés sur toute la durée du G7. Ils sont appuyés par 4 000 militaires, car la ville sert également de point d'arrivée pour nombre de délégations. Un dispositif à la hauteur des risques, explique au micro d'Europe 1 Caroline Cast, conseillère d'État de Genève.
Vous avez des risques de sabotage sur les infrastructures critiques, vous avez des cyber-risques. Il y a toute la sécurité de l'aéroport. Il faut savoir que les délégations atterrissent à l'aéroport international de Genève. Les autorités de sécurité suisses doivent assurer leur acheminement en escorte jusque sur le territoire français afin qu'ils puissent se rendre à Évian.
Depuis jeudi également, 25 des 35 postes frontières entre la France et la Suisse ont été fermés. Côté français, dispositif XXL là aussi. 16 000 policiers, gendarmes, militaires, pompiers et gardes frontières sont déployés pour assurer la sécurité autour de la ville d'Évian.
Les dossiers sensibles à ce G7 ne manquent pas. L'Ukraine, bien sûr, et Donald Trump s'est déjà entretenu avec le président ukrainien Zelensky, mais aussi le Proche-Orient. Emmanuel Macron tient à tester la solidité du camp occidental. Il a aussi convié à partir de mardi l'émir du Qatar et le président des Émirats Arabes Unis. Un G7 qui va s'ouvrir alors que cela fait plusieurs jours que l'on parle de la signature imminente d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais le président américain est remonté contre le premier ministre israélien qu'il accuse d'avoir risqué de saboter la signature d'un accord puisque Tsahal a bombardé cette nuit pour nous les positions du Hezbollah à Beyrouth. Jacques Serret.
Des frappes menées ce matin par l'État hébreu sur la banlieue sud de la capitale libanaise, fief historique du Hezbollah, allié de l'Iran. Tsahal assure avoir répondu à des tirs du mouvement terroriste chiite qui visait son territoire, mais l'initiative a fortement déplu à Donald Trump qui s'est d'abord publiquement désolidarisé de Benjamin Netanyahou. Ces frappes n'auraient pas dû avoir lieu, a-t-il estimé dans un premier message posté sur ses réseaux sociaux. Visiblement très remonté, le président américain a ensuite expliqué aux médias Axios avoir vivement réprimandé le premier ministre israélien après cette offensive. Netanyahou n'a aucun jugement, assène même Donald Trump qui précise tout de même que l'accord avec l'Iran est malgré tout toujours en cours de discussion. Selon le chef de la Maison Blanche, la signature devrait intervenir dans les prochaines heures. Pourquoi pas ce soir, jour du 80e anniversaire de Donald Trump. Côté iranien, en revanche, on ne décolère toujours pas. Téhéran annonçait tout à l'heure une réponse imminente à l'offensive israélienne de ce matin sur Beyrouth. De quoi semer le doute sur la signature d'un accord dans la soirée, comme le promet Donald Trump.
L'actualité en métropole et la question du sauvetage du régime de retraite, cela sera l'un des thèmes de la prochaine présidentielle. Le Rassemblement national met sur le sujet un peu d'eau dans son vin. Jusque-là opposée à la retraite par capitalisation, la chef de file des députés RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, ouvre désormais la porte à une part de capitalisation volontaire dans les retraites.
Je pense qu'il faut évidemment proposer aux Français les moyens pour qu'ils puissent se constituer une retraite complémentaire par capitalisation. Mais je suis bien consciente que ça ne suffit pas, puisque l'objectif prioritaire, c'est de protéger les retraites de ceux qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre cette capitalisation volontaire. En tout cas, ce qui est sûr, passer d'un système par répartition déficitaire à un système par capitalisation, ça n'est pas possible. Voilà, disons-le clairement, ça clôt le débat. Il faut arrêter de vendre des choses qui n'existent pas.
On peut pas passer
de l'un à l'autre. Il n'est pas possible de passer de l'un à l'autre, sauf lorsqu'on a un système excédentaire, et ça n'est hélas pas le cas de la France.
Marine Le Pen sur le plateau de France 3.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Lors de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour, faut-il selon vous créer une cour disciplinaire de la magistrature pour sanctionner les magistrats quand ils commettent des erreurs ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Avant d'ouvrir notre magazine des sports du lundi, on va prendre la direction de l'Espagne avec la visite d'un lieu insolite à Almeria, un site de 45 000 hectares sur lequel Michelin teste ses pneus de l'extrême. Des pneus pour les avions, les engins agricoles ou les engins de chantier spécialisés avec des roues de 4 à 5 mètres de diamètre. C'est un levier de croissance pour le groupe français. Le reportage d'Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Ambiance western, paysage ocre, sablonneux, des montagnes à perte de vue et des pistes spécialement conçues pour martyriser ces pneus hors normes comme ceux qui équipent les dumpers, ces camions-bennes géants, des pneus dont le diamètre frôle les 5 mètres. Philippe Jacquin, directeur de la R&D du groupe Michelin.
On va leur faire subir de grosses difficultés, pires ici que ce qu'on voit sur le monde minier. Par exemple, les faire rouler sur des cailloux gigantesques à des vitesses imposantes avec 630 tonnes de charge et puis constater ensuite comment la gomme et les câbles ont résisté.
Même objectif quelques mètres plus loin, cette fois avec des tracteurs et moissonneuses-batteuses comme le décrit Kevin Malter, directeur des activités en dehors de la route comme la défense, l'aviation et donc les engins agricoles.
On pousse à l'extrême nos produits, température, type de sol, pente, et on voit jusqu'où on peut aller et qu'est-ce que nous, pour les prochaines générations, on va pouvoir améliorer.
Un secteur stratégique, le plus rentable du groupe avec 17% du chiffre d'affaires. La concurrence, notamment chinoise et indienne, est rude, mais le Bibendum s'active pour garder son avance, comme dans l'aérien où un avion sur trois dans le monde atterrit sur des pneus Michelin. Almeria, Aurélien Fleureau, Europe 1.
Il est 11h et bientôt 52 minutes.